Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous débutons un cycle d'émissions avec les chrétiens d'Orient pour essayer de comprendre ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Blanchard, délégué à l'œuvre d'Orient dans le département de la Haute-Garonne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et juste à côté de vous, Mesfin Teklemariam, vous êtes né à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, et êtes en France depuis 20 ans. Bonjour à vous.
Bonjour monsieur.
Pour débuter, déjà on va donner la thématique à nos auditeurs. Aujourd'hui on va parler de l'Éthiopie. C'est important pour commencer de préciser où ça se trouve l'Éthiopie déjà.
Alors, l'Éthiopie se trouve dans la corne de l'Afrique, tout à l'est, séparée de l'Arabie Saoudite par la mer Rouge, séparée du Yémen. L'Éthiopie, c'est deux fois la France en surface.
Tout à fait.
Et donc, on se déplace beaucoup en avion. Et l'Ethiopian Airlines, la compagnie nationale, est une des plus sûres du monde. Donc, si vous allez là-bas, n'ayez pas peur. La population fait à peu près 60% de plus que la population française, vous voyez.
Donc 110 millions, 120 millions.
C'est quand même un pays peuplé. Encore que il y
c'est
a
un des
pays
les plus peuplés d'Afrique, on peut le dire.
Le deuxième.
Oui, le deuxième après le Nigeria. Mais il y a des endroits qui sont vides d'habitants ou presque. C'est un pays à 55-60% de chrétiens. Dont 85% de l'église autocéphale éthiopienne qu'on appelle Tewéado.
Orthodoxe.
Les catholiques représentent 1%. Donc c'est une petite minorité. Et les évangéliques, 10% à peu près. Les musulmans représentent 35% de la population. C'est surtout situé à l'est et au sud-est, Somalie, Afar. Et les animistes, 10%, donc ça n'est pas négligeable.
C'est vrai.
Voilà. C'est un pays qui a une civilisation qui a de plus de 3000 ans. Plus de 3000 ans. Vous imaginez la richesse de civilisation qu'il y a là-bas.
Avec la dynastie, effectivement, donc de Domte, d'Aksum, c'est le royaume d'Aksum donc, qui est le plus connu donc, du monde entier et qui a existé depuis bien le mythe donc, de la reine de Saba qui, après différentes dynasties qui se sont succédées jusqu'à nos jours, donc, c'est un pays indépendant qui n'a jamais été colonisé, à l'exception donc, de 5 années d'occupation de l'Italie, et le seul pays africain qui a jamais connu donc la colonisation et qui est aussi membre donc des États fondateurs donc de l'Organisation des Nations de l'ONU et à l'époque ça s'appelait des sociétés des nations donc on a pu ratifier donc tous les traités. Même malgré ça, donc il y a eu une invasion donc des Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on a survécu, donc voilà, l'Éthiopie reste le seul pays qui a jamais été colonisé, qui a gardé donc sa langue officielle qui est l'amharique, qui est ni l'anglais, ni le français, ni une langue européenne en tout cas, et qu'on peut décrire l'Éthiopie avec les différentes langues qui sont parlées donc dans le pays. Il y a à nos jours plus de 80 langues qui sont recensées et dont qu'on se sert la langue amharique qui est donc une langue sémitique qui nous sert donc de langue officielle, qui a sa propre littérature, qui a sa propre alphabet et qui est riche donc en vocabulaire et en toute expression. Et ça nous permet donc d'être un peu plus à part et ça nous a permis donc de garder toute la culture et nos coutumes à nos jours sans être vraiment envahis.
un pays avec une grande histoire en termes de ressources naturelles. Est-ce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, de
Alors,
richesses?
pour l'instant, c'est vu qu'on n'a jamais eu le temps, malheureusement, donc d'exploiter donc le sous-sol, parce que ça, l'histoire d'Éthiopie, ça a toujours été avec la guerre, donc que ça soit pour son indépendance donc contre les envahisseurs, ou même parmi les différentes donc qui essayaient de d'administrer le pays. Donc il y a toujours eu de conflits, il y a toujours eu de guerres. Et dans l'histoire, donc le seul moment où on peut dire on est resté un peu calme, ça sera donc à partir de 91 jusqu'à la guerre donc éthio-érythréenne. Donc pendant 8-10 ans à peu près, donc ça a été un peu calme. On a pu construire le pays, on a pu se baser sur autre chose, même si c'est pas la bonne direction à mon goût.
On raconte que la chrétienté est arrivée en Éthiopie dans le royaume d'Aksoum, actuellement au nord du pays. Comment ça s'est passé, cette évangélisation, cette arrivée de la chrétienté sur le territoire éthiopien?
Alors, c'est vrai, officiellement, l'Éthiopie est devenue donc un pays chrétien à partir du 4e siècle, donc avec le baptême de roi Ezana. Mais si on regarde un peu plus avant, il y a sur les actes donc, qui est marqué, il y a l'eunuque donc, de la reine Hendeke, qui a été baptisé l'apôtre Philippe. Vu l'importance donc de ce personnage donc dans le royaume de l'époque, on peut pas dire que le christianisme n'a pas survécu, n'a pas été propagé. Mais officiellement, après le baptême donc de roi Ezana, on dit l'Éthiopie a accepté officiellement le christianisme. Mais on savait qu'avec l'eunuque qui a été baptisé par l'apôtre, il y a eu donc l'évangélisation qui avait commencé. Et bien avant, même l'eunuque, donc le départ de l'eunuque à Jérusalem, c'était parce que ben, il était croyant, on était sur le judaïsme, donc il partait pour adorer donc Dieu à Jérusalem, et il avait donc le livre d'Isaïe avec la à sa main. Donc ça montre bien qu'il y avait une croyance, il y avait judaïsme au départ, et après avec l'arrivée donc de frère Flaminatus, on a accepté le christianisme au 4e siècle, lui.
La stabilité. Ah, peut-être que Pierre Blanchard a quelque chose à dire.
Oui, parce que depuis la reine de Saba, il y avait des échanges continus avec Jérusalem où des Éthiopiens allaient prier au temple de Jérusalem. Vous voyez? C'est pour ça qu'il était parti là-bas.
Et c'est le seul pays d'Afrique à l'époque qui a ces liens avec Jérusalem, ou il y a d'autres pays autour, aussi à majorité chrétienne, qui interagissent?
Alors, à l'époque, nous, on avait beaucoup plus d'intérêt à Jérusalem, à Israël, puisque nos rois, ils avaient de descendance donc de roi Salomon. Puisque c'est pas pour la plupart des gens, donc c'est une mythe, mais la reine de Saba, elle a vraiment existé. La reine Makeda, nous on l'appelle Makeda, qui a régné donc sur l'Éthiopie, qui est allée voir donc le roi Salomon. Parce qu'il avait entendu, il y avait des marchands donc, qui passaient d'Aksum à Jérusalem, en passant par Jérusalem jusqu'à les Indes. Et il avait entendu donc, la grandeur de roi Salomon. Donc, il a fait le déplacement. Et là, donc là, il y a le Ménélique premier qui a été conçu. Et il est descendu, donc il est né en Éthiopie, il est devenu donc le premier roi descendant donc de roi Salomon. Et après, on le voit bien jusqu'à le dernier empereur éthiopien qui est décédé en 1975. Il est aussi donc descendant de roi Salomon. Donc pour nous, c'est pas qu'une mythe, ça a une existence, et ça expliquait un peu pourquoi on avait ce lien, pourquoi on faisait donc le déplacement jusqu'à Jérusalem.
Et on peut dire que un des emblèmes de l'Éthiopie est le lion de Juda.
Tout à fait.
Donc c'est très important de le savoir.
Tout à fait.
La stabilité du pays et particulièrement de la religion chrétienne a été ébranlée entre le XVIe et le XVIIe siècle avec l'arrivée des jésuites. Expliquez-nous, Mesfin Tekle Mariam, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement?
Alors, donc l'Éthiopie est restée chrétienne. Donc, comme on avait dit, le royaume d'Aksum, qui était un des quatre royaumes qui était le plus fort de l'époque, ça, donc il y a eu une existence jusqu'au XVIe siècle, en étant donc l'église orthodoxe éthiopienne. Mais on appartenait bien donc avec la séparation de l'Église qui a eu donc avec les conciles de Chalcédoine. Et donc c'était à Alexandrie, donc le patriarcat était à Alexandrie. Et on est resté donc sur ce schéma-là au 16e et 17e siècle. Donc les Européens qui sont arrivés donc avec le but d'évangéliser les Éthiopiens, alors que nous, l'évangile, c'était pas inconnu. Et par contre, bon, avec le rite catholique, il y a eu une différence et il y a eu plus de 50 000 morts ces époques-là. C'est entre 16e et 17e siècle. C'est vrai, on a souffert de cette différence. Il y avait l'église orthodoxe toadou qui était déjà en place. Il y avait les catholiques qui venaient donc prêcher l'évangile. Et pour les personnes qui étaient déjà évangélisées, c'était confus. C'était devenu donc un moyen d'acquérir le pouvoir. Donc c'était très, très compliqué. Donc il y a eu beaucoup de pertes humaines. Et après, avec l'arrivée donc de roi David, on l'appelle, et qui était l'enfant de Soussounios, qui avait accepté donc le catholicisme, et il a remis donc les choses à l'ordre, et depuis ça, le conflit donc qu'il y a eu à l'époque, ça a eu donc de conséquences avec le catholicisme donc qui est arrivé. Et c'est pour ça, quand Monsieur Blanchard disait que le catholicisme représente 1%, c'était parce qu'il y avait ce vécu là. Et les jésuites, ils n'ont pas laissé une bonne empreinte. Donc, jusqu'au XXe siècle, le rapport était très, très compliqué.
Et les jésuites ont été interdits jusqu'en 1951, quand
tout
même.
À fait. Ah oui.
Ah oui,
tout à fait. On le disait aussi tout à l'heure, 35% de musulmans, c'est une religion qui est présente sur le territoire. Comment ça se déroule, les relations entre les catholiques, les orthodoxes, les musulmans?
Alors, c'est vrai, c'est une fierté dans ce sens-là. Donc, à l'exception de quelques épisodes donc, dans l'histoire de l'Éthiopie, on n'a jamais eu de problème entre religieux. Donc, c'est vrai, c'est le premier pays aussi dans ce sens-là à accepter l'islam et les persécutés d'islam en Éthiopie. Qui a laissé donc les gens vivre leur foi librement, qui ont prêché, qui ont eu des adeptes, donc arrivé jusqu'à 35% de population donc éthiopienne. On n'a jamais vécu à l'exception, comme j'ai dit, donc de l'invasion d'Ahmed le Gaucher. Il est connu plus Ahmed ibn Ibrahim. Et il y a eu, c'est vrai, c'était une période très, très compliquée. Mais après, dans la vie quotidienne, on ne se demande pas qui est croyant, donc qui est musulman ou chrétien. On a des collègues, ou même sur le banc des écoles, donc on ne sait pas. Mais on arrive à comprendre pendant les périodes de fêtes, on se souhaite les bonnes fêtes. On amène de petits gâteaux, donc les musulmans, ils apportent des gâteaux quand c'est la fête donc musulmane. C'est à ce moment-là qu'on comprend que l'enfant qui est à côté de moi, il est de confession musulmane. Sinon, dans la vie quotidienne, il n'y a pas eu trop de problèmes. Et il y a même eu des mariages donc interreligieux.
Oui.
Et moi, de côté de ma mère, mon grand-père, donc paix à son âme, il était un imam, donc de confession bien musulmane. Et ma mère, à la rencontre donc de mon père, qui s'est converti au christianisme, et on est là. Donc moi, j'ai une famille qui sont donc pratiquants musulmans, donc de côté de ma mère, et de côté de mon père qui sont donc chrétiens, orthodoxes, toi, donc ça n'empêche pas donc de vivre ensemble. Ça a toujours été cette joie donc de partager la vie au quotidien.
Et justement, comment vous faites? Vous allez piocher, si je puis dire, un petit peu des deux, ou vous êtes chrétien orthodoxe et
Non, je suis né chrétien orthodoxe, donc ma mère s'est bien convertie donc à la rencontre donc de mon père. Et quand j'y vais donc dans la famille de ma mère, ben, je respecte donc leur confession. Eux aussi, à l'accueil donc que j'arrive chez eux, ils m'accueillent avec le respect. Donc il y a des choses qu'on n'aborde pas. Donc la religion, comme on dit en Éthiopie, la religion elle est personnelle. Ce qu'on partage, c'est la terre, c'est le pays. Donc dans tous les grands conflits qu'on avait eus, c'est ce principe qui nous a sauvés, qui nous a réunis pour pouvoir donc avancer.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et on revient dans quelques instants. On écoute My Heart de AVB.
My soul is on fire, with the flame burning bright till the day that I die. You've taken me higher, from the flat on my back to the stars in the sky. You're my justifier.
You've established my ways and direct me each day.
I'm with you.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être en présence de Pierre Blanchard, délégué 31 pour l'œuvre d'Orient, et Mesfine Tekle Mariam, née en Éthiopie et depuis 20 ans en France et plus particulièrement à Toulouse. Mesfine Tekle Mariam, racontez-nous votre histoire. Vous vous êtes née il y a déjà combien de temps en Éthiopie?
Je suis né en 79, donc ça, j'ai entamé ma 44e printemps. Et je suis arrivé il y a 20 ans sur Toulouse. Ça a été une histoire compliquée. Et c'était pas, j'avais pas envie de partir. C'est vrai, toute ma famille, mes frangins, ils sont au pays. Mais le conflit de l'époque et mon engagement donc de jeunesse, ça fait qu'il fallait que je parte pour ne pas faire de la peine à la famille. Donc bon, on avait le choix soit de partir, soit d'y rester, mais d'y rester peut-être envisager le pire ou même emprisonner. Donc bon, c'est vrai, c'est le choix qu'on peut classer de lâche, mais bon, je suis parti quand même pour ne pas faire la peine de la famille. Et c'est vrai, bon, je me suis plus à Toulouse. Je ne me suis plus en France. Et j'adore cette liberté qu'on a de pouvoir penser, s'exprimer et faire des choses qui sont merveilleuses. Donc bon, même si la famille me manquait un temps, ça a été très très compliqué. Mais je suis revécu, je suis là.
Comment se sont passées les 24 premières années en Éthiopie? Vous disiez une enfance quand même marquée par la violence et la guerre.
Alors, comme je vous disais, donc à mes 11 ans, il y a l'arrivée donc le régime donc de Derg, de Mengistu, qui est tombé. J'avais 11 ans, donc c'est vrai, j'étais encore au début de mon adolescence. Et les 8 années qui suivaient, donc de 11 jusqu'à mes 19 ans, c'était l'année où vraiment on n'entendait pas un coup de pistolet ou y avait rien eu. Donc c'était vraiment une époque de la paix. Et donc ce qui m'a donné un peu de m'engager autrement, parce que bon, tous mes aînés, à leurs 18-17 ans, donc ils étaient enrôlés de force, et ils partaient faire l'armée, donc c'était d'office. Alors que moi, à mon époque, quand je suis arrivé, donc à mes 18-19 ans, c'était vraiment de la paix. Il y avait un petit souffle de la démocratie, donc on pouvait s'engager dans des partis politiques ou même dans des associations qui sont engagées. Et chose que j'avais entamée, pensant bien que bon, là, on pouvait faire parler de tout, débattre, tout ça. Mais c'était juste des mascarades, donc il faut quand même suivre donc les gens qui sont donc au pouvoir. Il faut pas trop les contrarier, il faut pas trop parler, et surtout qu'à l'âge de 18-19 ans, et quand on a un peu de charisme et qu'on peut faire changer d'avis de certaines personnes, c'était très très mal vu. Donc on m'a proposé de partir, je suis parti.
Ça a été dur ce départ, vous disiez, laisser toute votre famille, vos amis.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, comme je vous disais, en ma croyance donc, de cette démocratie, j'avais un rêve donc, du pays. J'avais tracé un peu ma vie pour pouvoir m'engager encore un peu plus donc, dans la vie politique du pays. Et arriver, comment les choses évoluent quand on voit les personnes qui nous sont à côté, ils sont emprisonnés sans des motifs valables, et que surtout qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu d'accusation, et on ne sait pas pour combien de temps. Et on s'est dit, ben, quand on voit la famille qui souffre, quand on voit les parents, ils cherchent les enfants, on leur dit qu'ils sont emprisonnés dans tel endroit ou dans tel endroit, mais ils ne les voient jamais. Et on dit, Moi, je n'avais pas envie de laisser mes parents dans ces contextes-là. Donc, c'est vrai, c'est ce qui m'a forcé en grande partie donc, de partir. Oui.
L'arrivée en France, comment ça s'est passé? Parce que c'est une culture totalement différente.
C'est vrai, j'ai été donc demandeur d'asile. C'est vrai, à l'époque, je trouvais le temps très très long. C'est interminable. Donc, souvent, on se lève le matin. Donc, toutes les bibliothèques de Toulouse, tous les jardins de Toulouse, donc c'était mon passe-temps parce que bon, on n'avait rien à faire, on avait le droit à rien faire, donc c'était très très compliqué, qui m'a permis donc d'apprendre le français aussi, bien sûr. Il faut s'occuper, il faut rester actif. Et quand j'ai eu donc le statut de réfugié, donc ça m'a permis de redémarrer un peu dans la vie, de faire des formations, de faire valider donc le diplôme que j'avais et continuer donc à travailler, à mener une vie du moins qui était beaucoup plus différente que ce que j'avais donc dans une première partie, mais au moins voilà, c'est il faut continuer à vivre.
Et aujourd'hui, vous êtes fier de ce que vous avez construit en France?
Oui, je suis vraiment fier parce que bon, c'est vrai, 20 ans ils sont passés. Je les ai pas vus passer. J'ai réussi dans ma vie professionnelle, donc j'ai fondé avec on est cinq au total, donc dans une société coopérative, donc on fait une société de réparation donc d'électroménager. Ça fait déjà 10 ans, donc on fête cette année 10e année donc d'anniversaire. J'ai rencontré madame aussi donc dans mes heures perdues, donc j'ai aidé un peu les gens qui venaient d'arriver, donc avec la traduction, avec je les assistais donc dans les démarches administratives. Et dans ces contextes-là, je l'ai rencontré. Donc, bon, on est parents de la troisième petite qui est arrivée en début de cette année.
J'aimerais qu'on attire l'attention des auditeurs sur la situation actuelle. Le pays est rentré dans une guerre civile en 2020. La région du Tigré d'un côté et le gouvernement de l'autre. Quelles sont les origines de ce conflit?
Alors, si on repart à l'origine, il faudra bien monter jusqu'à 91, donc
Ah oui.
l'arrivée donc. De front populaire donc de Éthiopiens qu'ils appelaient, donc c'est une partie politique qui a enrobé plusieurs parties en elle-même, mais qui est gérée par le TPLF, donc le Front Populaire de Libération donc de Tigré. Et à l'arrivée donc ils ont modifié les constitutions. On a régné pendant 7-8 ans, donc cette époque qui était vraiment pacifique. Mais là, la grande difficulté commence de là parce qu'ils ont séparé donc l'Éthiopie en 14 régions.
Ah oui.
Et ces régions, contrairement à ce qui se faisait avant, ils sont divisés par des langues parlées. Donc des langues qui sont majoritairement parlées. Il y a la région donc de Tigré, la région d'Oromo, la région d'Amara, et ainsi de suite. Ces gens-là, quand on les voit, ils sont tous éthiopiens. Mais la seule chose qui les différencie, c'est les langues qu'ils parlaient. Et sans parler, sans prendre en considération les gens qui sont issus de deux peuples, donc des gens qui parlent donc une langue ou une autre. Ils ont refondé une famille, il y a des enfants donc qui parlent peut-être les deux langues, qui ne parlent pas du tout les deux langues, ou qui parlent une autre langue. On n'a jamais pris considération. Donc on a séparé l'Éthiopie en 14 régions linguistiques. Et ça a été donc pendant 30 ans, c'est resté comme ça. Donc la fracture, ça s'est creusé au fur et à mesure. Mais à la tête, c'était toujours TPLF qui régnait avec le front donc, de population pour la révolution éthiopienne. Donc c'est une partie politique qui englobait plusieurs partis, mais à la tête, TPLF. Et en 2018, il y a eu, bien avant 2018, donc il y a eu beaucoup de gens qui se révoltaient parce que bon, il y a beaucoup d'exilés, il y a eu beaucoup de gens qui sont assassinés, qui sont morts, qui sont emprisonnés donc d'opinion. On ne sait pas où ils sont passés, ou on ne sait pas ce qui les a arrivés, donc on a sans nouvelles. Donc il y avait des gens qui se commençaient à se révolter un peu partout, du nord au sud. Donc TPLF a pris conscience qu'il fallait quand même modifier, changer un peu. Et ils ont changé donc, dans la structure donc, de Front Populaire Éthiopien de mettre à la tête une autre partie que TPLF.
D'accord.
Donc en 2018, ils ont cru pouvoir changer donc, ou atteindre la révolte qui s'élève de partout en faisant donc, ce changement-là. Et c'est avec ce changement que le parti donc, de Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, qui est arrivé au pouvoir. Et lui, donc, conscient donc, de ce qui a été fait auparavant, tout ce qui peut changer par le décret, il l'a changé. C'est-à-dire que tous les exilés, ils avaient le droit de rentrer. Tous les gens qui étaient emprisonnés sans raison ou sans limite, donc, il les a libérés. Tous les gens qui étaient dans la peur, donc on se sentait un peu éthiopien parce que depuis 30 ans, c'était le seul politique qui disait que voilà, l'Éthiopie en premier. Et aussi, il a réglé le problème qu'il y avait, donc le conflit qu'il y avait entre l'Érythrée et l'Éthiopie pendant 20 ans. Et les familles qui ne se voyaient pas, qui ne pouvaient pas se rencontrer, donc il a tout libéré, qui lui a valu donc le prix Nobel de la paix. Et ces dirigeants donc, de TPLF, ils se sont sentis un peu exclus, ils se sont sentis un peu abusés, et donc ils se sont repliés dans la région de Tigré. Mais vu que la suite nous montre bien, ils étaient bien préparés donc, à ces événements-là. Ils étaient beaucoup plus armés donc, que l'armée fédérale éthiopienne. Donc, ils ont commencé le conflit sur la région d'Afar et sur la région d'Amara. Et le début qui se concrétise comme ça, mais qui revenait beaucoup plus avant parce qu'ils avaient vraiment préparé le pays en divisant pour mieux régner et c'était compliqué.
Pierre Blanchard, les organisations non gouvernementales, les ONG, parlent d'une guerre d'une rare violence.
Oui.
C'est terrible ce qui se passe sur place.
Ben, on n'a pas trop de renseignements, mais selon l'ONU ou d'autres, le conflit a fait entre 100 000 et 500 000 morts.
Depuis 2020 ?
Oui.
Ah oui.
Mais il ne faut pas oublier les villages détruits, les femmes violées, parce qu'il y en a eu beaucoup, énormément, par des Érythréens, en particulier. Et... C'est un drame pour ces femmes.
C'est un conflit qui est peu médiatisé. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah que comme ce qui se passe en Syrie, comme ce qui se passe en Irak, comme ce qui se passe dans beaucoup de pays, les médias n'en parlent pas.
Comment vous l'expliquez?
Bah parce que il y a peut-être des intérêts extérieurs à ce qu'on n'en parle pas.
Vous pensez à quoi quand vous dites ça?
Faudrait que j'ai des preuves. Enfin, j'ai pas des preuves aujourd'hui là pour vous dire. Mais il y a des intérêts. Il y a quand même des intérêts stratégiques. Faut savoir que à Djibouti il y a une base américaine. Et puis il y a le conflit au Yémen. Donc c'est important. Puis il y a du pétrole en Arabie Saoudite. Enfin, vous voyez.
C'est pour ça qu'on en parle plus.
On n'en parle pas.
Oui.
Parce que il y a des intérêts qui échappent aux médias.
Après, si je peux me permettre, c'est vrai, c'est un coin très stratégique. L'Éthiopie, donc dans tous les pays de Moyen-Orient, quand on regarde, c'est la première puissance qui contrebalance un peu la montée de l'islamisme. Donc, l'Éthiopie a quand même intervenu donc en tant qu'État, est intervenu au Somali quand il y a eu donc des difficultés. Et c'est le seul pouvoir entre guillemets donc chrétien qui est entouré donc à l'ouest par le Soudan qui est Islamique République et à l'est vous avez donc la Somalie donc la Golfe d'Aden et donc tout le pays de Moyen-Orient. Donc stratégiquement donc les Européens ils n'avaient pas au début ils savaient pas où se placer parce qu'ils ont quand même œuvré pendant 30 ans plus de 30 ans avec les dirigeants de TPLF, et tout d'un coup, ils sont devenus rebelles. Ils se déclaraient rebelles. C'est compliqué de suivre des dirigeants donc de l'État éthiopien pendant 30 ans qui se sont serrés la main donc diplomatiquement de tous les Européens et tout d'un coup ils se déclarent rebelles et qui prennent les armes et les armes lourdes. Et donc les Européens, ils avaient du mal à suivre donc cet épisode-là, même si quand on voit un État fédéral donc qui fait la guerre à une province ou à une région, on dit c'est déséquilibré. Mais quand on voit donc l'armement qu'il y avait, quand on voit que les dégâts qu'ils faisaient donc la TPLF. Les Européens, ils avaient du mal à suivre donc cette rébellion à la défendre, si vous voulez, et l'État fédéral aussi. Donc c'est vrai, il y avait des meubles à sauver, c'était très compliqué. Il y avait la crédibilité donc qui était en jeu. Le Premier ministre qui était donc au pouvoir que depuis 2 ans, il y avait beaucoup plus de réformes en train de mettre en œuvre et qu'il y a ce conflit qui se déclare. Donc c'est vrai, on n'avait pas eu c'était pas le moment de s'investir sur la guerre. Donc le temps de regrouper, de reformer l'armée, de ressortir donc une armée à peu près convenable donc pour pouvoir maîtriser ce conflit-là. Et entre-temps, il y a eu des civils qui ont payé de leur vie, qui n'ont rien demandé. C'était compliqué, c'était difficile. Oui.
Justement, vous avez été sur place. Quelle est la situation? Les populations manquent de tout?
Alors, je vais dire simplement, en 2018, quand nous sommes passés entre Aksum, enfin dans le Tigré, entre Aksum à Digrat, on nous a dit l'Érythrée est là et de temps en temps, c'est dangereux parce que les Érythréens viennent attaquer. En 2018.
Eh oui.
Donc, vous voyez.
C'était 2018, c'était l'arrivée donc de Premier ministre Dr. Abiy Ahmed, et c'était une tension qu'il y avait déjà depuis 20 ans. Donc lui, il est arrivé au pouvoir en quelques mois, en quelques décrets, il a tout réglé, même si voilà, internationalement ça a été reconnu et que ça lui a valu donc le prix Nobel de la paix. Il y a eu toujours des groupes qui œuvraient, qui tournaient un peu dans ce sens-là. C'était pas évident. Oui.
En 2018, j'ai entendu, plus au sud, dans le pays Amhara, que les gouvernants tigréens avaient capté pas mal de la richesse pour investir dans leur pays
Ah oui.
et n'investissaient pas trop dans les autres régions.
Alors,
J'ai entendu.
ça c'est le on dit.
C'est le on dit.
Ouais, mais c'est vrai, pendant 30 ans, donc ceux qui étaient au pouvoir donc sur l'État éthiopien, c'était le dirigeant donc de TPLF, de la région de Tigré. Mais moi, je mets ma main à couper. La population tigréenne n'a pas bénéficié
Non.
de ce qui a été
Oui.
accaparé.
Pour préciser aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'on rentre dans des considérations un peu complexes, au début de l'année, le 11 janvier, le Tigré a commencé à restituer son armement lourd à la mission de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que le processus de paix qui a été négocié en novembre 2022 est durable? Est-ce qu'on peut s'attendre à une paix durable en Éthiopie?
Honnêtement, c'est ce que j'espère. Parce
Ce que tout le
que
monde espère, oui.
voilà, c'est ce que j'espère, que ça soit d'un côté ou d'un autre, c'est mes frères qui tombent, c'est des Éthiopiens qui tombent,
Oui.
et une vie humaine, quand M. Blanchard donnait tout à l'heure les chiffres, et ça fait mal, c'est des vies humaines qu'on parle, hein, de 150 000 morts, c'est des vies humaines, ça fait mal. Donc j'espère que ce traité de paix ou cet accord de paix soit durable. En tout cas, il y a au moins une prise de conscience donc, dans la région de Tigré, parce que ces gens-là qui ont été au pouvoir pendant 30 ans et qui ont fait en sorte, disons, sous le nom de la population de Tigré, ils ne sont là que pour leur propre intérêt, ou voilà, juste pour une minorité qui sont en train de massacrer tout le monde. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que les gens, avant tout, on est tous éthiopiens, on est tous, en plus, historiquement, donc le Tigré, ça a toujours été chrétien, donc une majorité chrétienne orthodoxe, on partage beaucoup plus de valeurs avec le reste de la population éthiopienne. C'est pas un autre pays, c'est pas un autre genre. Voilà, nous sommes des frères, donc il faut qu'on avance dans ce sens-là.
Mais dans l'accord de paix du 2 novembre, il est prévu que l'armée rebelle tigréenne livre son armement, mais il est prévu l'évacuation des forces étrangères, en particulier érythréennes, et aussi le retrait de l'armée de la région d'Amara, qui était une armée qui n'est pas fédérale, mais qui avait été créée pour se défendre. Donc, on cherche la réciprocité dans dans cet accord, pour pas qu'il y ait des
disparités.
Tout à fait, ça commence à prendre forme et que les dirigeants donc des TPLF, ils sont pour parler donc avec les représentants donc de l'État fédéral. Et honnêtement, vu la tournure que ça prend, donc je pense que on est arrivé au bout de quelque chose qui a été horrible, qui a coûté beaucoup trop de vies humaines. Et on tournera la page avec la paix, avec plus de compréhension et de prise de conscience.
Tout n'est pas réglé, parce qu'il y a quand même ces 14 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire.
Oui.
Parce que
ça fait quasiment un habitant sur 5.
C'est
vrai, sur 7,
Déjà, si on voit la population tigréenne qui est entre 6 et 7 millions de personnes, et quand on englobe donc, une partie d'Amara, une partie d'Afar, c'est vrai, c'est... Et surtout que ce qu'a coûté la guerre pendant ces périodes-là, le gouvernement fédéral n'a pas pu œuvrer sur d'autres parties où la population avait besoin. Donc, quand on met le budget sur l'armement, sur la guerre, c'est qu'on enlève quelque part.
Et que l'aide humanitaire a encore beaucoup de mal à arriver. Et quand on parle des 14 millions, il y en a 5 millions et demi au Tigré, mais il y en a 7 millions en Amara et 1,2 million en Afar. Donc, dans trois régions d'Éthiopie.
Tout à fait.
Et dont 7 millions d'enfants.
Eh oui.
Donc, c'est énorme.
C'est la population éthiopienne, quand même, reste majoritairement très, très jeune. Donc, c'est dynamique, c'est jeune. Et c'est pas faux quand on déclare qu'il y a 7 millions d'enfants qui ont besoin d'aide.
C'est une vraie réalité. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute The Gospel de Ryan Stevenson.
A restless generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. To the skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. Condition, it's the good news for us all. It's greater than religion, it's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess
gospel is not that we can receive Jesus into our lives, but that he's already received us into his.
In my own life, it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment, gospel that makes a way.
Présence à Montauban 93.3.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Pierre Blanchard, délégué 31 à l'œuvre d'Orient, et Mesfine Tekle Mariam, née en Éthiopie et en France, et plus particulièrement à Toulouse, depuis 20 ans. Pierre Blanchard, l'œuvre d'Orient, comment est l'œuvre, tout simplement, en Éthiopie ?
Alors, d'abord, l'œuvre d'Orient, c'est plus de 400 écoles aidées.
Ah oui.
Donc, vous voyez... C'est plus de 400 écoles.
À l'échelle du monde entier, c'est bien ça ?
Non.
Uniquement en Éthiopie.
Uniquement en Éthiopie.
Uniquement en Éthiopie.
Et c'est tenu par des congrégations religieuses et des actions locales comme la promotion de la femme, l'aide aux agriculteurs, l'irrigation. Je vais donner deux exemples très rapides que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré d'autres. Et je vais donner un projet que nous défendons aujourd'hui. À Gondar, j'ai rencontré la congrégation italienne des Sœurs de Sainte-Anne qui accueille des enfants aveugles en orphelinat. Et je peux vous dire que c'est poignant de voir ces petits touts avec les yeux qui sont éteints. Et le conducteur du car, quand il a vu ces petits, est parti pleurer dans son coin. Mmh. Voyez-moi, ça me remue encore.
Oui, ça vous touche.
À Wicro, j'ai vu aussi un père blanc qui nous a fait visiter son école d'agriculture et d'horticulture. Et il avait toute une ferme-école pour aider à la formation en agriculture de volontaires et d'élèves. C'était très bien fait, c'était impressionnant. Et moi, comme agronome, j'ai trouvé que c'était impressionnant. Je ne vais pas parler d'autres choses que j'ai vues. Bon, les 400 écoles sont dirigées, donc les 400 écoles scolarisent à peu près 400 000 élèves. Bon, vous me direz, c'est pas énorme dans un pays.
Ça fait quand même 1000 élèves par école.
Oui. Et aujourd'hui, il y a un projet, c'est favoriser l'autonomie des femmes. Parce que, en particulier à la campagne. Les femmes, ben, comme disait une sœur, c'est beaucoup plus difficile d'être autonome pour une femme parce qu'il y a les travaux domestiques, les corvées de bois, les corvées d'eau, l'éducation des jeunes. Et c'est plus dur parce que beaucoup d'hommes n'aident pas. Mmh. Et les femmes ont plus de foi, souvent, que les hommes. Et c'est elles qui entretiennent la foi des enfants. Donc c'est très très important, et le programme qui est soutenu par Sœur Hiwot Zoudé, des les filles de la charité, c'est dans 4 endroits différents de l'Éthiopie, d'aider à la création de 10 000 microcrédits, de micro-entreprises. Vous me direz, c'est un grain de sable dans la mer, mais on commence par quatre. Alors, il y en a une à Bahardir. Une dans l'ouest, une dans le sud-ouest et une dans le sud. Voilà. Et c'est. Si on peut permettre à 10 000, dont 3 000 jeunes, 10 000 femmes, dont 3 000 jeunes, c'est une semence. Mm. C'est une semence de développement pour ces femmes et d'autonomie. Mm. Même si, bon, elles sont mariées, elles sont mariées, mais. Ça, parce que dans les grandes villes, vous avez plus de femmes qui sont salariées, et il y a des femmes qui ont des postes très importants. Il y en a même des ministres. Donc vous voyez, là c'est plus rural. Mmh. Et c'est important.
C'est vrai, donc la place des femmes doit être défendue, donc pas qu'en Éthiopie, donc dans le monde entier. Mmh. Même si l'Éthiopie, c'est vrai, on considère la femme. Même si on ne lui donne pas la place qu'elle doit. Et les femmes ont toujours été considérées dans n'importe quel royaume. On peut citer l'Éthiopie pour avoir donné donc le noble de reine, de princesse. Et même actuellement, donc dans le gouvernement, et surtout le gouvernement Abiy Ahmed, il est connu pour avoir fait la parité, donc homme-femme, entre ses ministres. Et c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas vrai, assez. Il faut aider la population féminine. Et celle qui porte, comme disait Pierre Blanchard, donc c'est l'avenir. Parce que les enfants, c'est l'avenir du pays, l'avenir de la génération future. Elle est éduquée très souvent par les mamans. Eh oui. Donc, il faut donner comment on appelle, l'autonomie à ces mères qui sont très, très, très malines dans le sens où la gestion, elle n'est pas compliquée pour elles. Et donc, c'est vrai, plus on aide les femmes, plus on aide la génération.
Il nous reste quelques minutes à cette émission, Pierre Blanchard, pour conclure, si vous avez quelque chose à dire.
Ben, je pense que c'est un pays très attachant, multiple, où il y a énormément de choses à faire, mais il y a énormément de choses qui ont été faites. Cette église qui, depuis le 4e siècle, existe, et a une liturgie depuis le 6e siècle, c'est... J'étais à Timkat, à Addis Abeba, j'étais à 10 mètres du patriarche de l'église éthiopienne.
Cette proximité aussi.
Oui.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On arrive beaucoup à la fin de cette émission. On aurait pu encore dire beaucoup de choses, mais je pense que les auditeurs ont en tout cas mesuré l'importance et l'urgence de la situation en Éthiopie pour venir en aide à l'œuvre d'Orient. Le site internet, Pierre Blanchard, peut-être nous le rappeler.
Alors, le site internet, c'est www.oeuvre-orient.fr. Et en première page, vous avez le projet pour l'Éthiopie.
C'est noté en tout cas. Merci beaucoup Pierre Blanchard, merci beaucoup Messine Tekle Mariam. La prochaine émission avec les chrétiens d'Orient aura lieu le mois prochain. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.